Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Seconde partie, gloire à l'empereur. Nous avons laissé le caporal Yasuo Kuwahara, jeune pilote de l'aviation japonaise, alors qu'il vient de faire ses adieux à son ami d'enfance, Tatsuno, l'un des 12 kamikazes qui vont se jeter sur les navires ennemis. Yasuo, lui, fait partie de leur escorte. Les nuages, qui jusqu'à midi se tenaient tranquilles derrière les collines, commencent à dévaler la pente en lourds et épais rouleaux. Dans moins d'une heure, ce sera l'orage. Yasuo entre dans l'habitacle de son avion, un vieil Hayabusa, déjà criblé d'impacts de balles. Il ferme le cockpit. Devant lui, les avions suicides décollent les uns après les autres, soulevant un nuage de poussière. Sa mission à lui est d'accompagner les kamikazes jusqu'à leur cible. Il est appuyé par 3 autres escorteurs. Ils doivent écarter toute menace venue du ciel. La chasse américaine peut très bien fondre de manière inattendue sur les avions japonais et les neutraliser avant qu'ils aient accompli leur mission. Le rôle des escorteurs, tous pilotes d'élite, est donc de liquider ces appareils coûte que coûte. Yasuo survole à présent l'océan. Derrière lui, la base n'est plus qu'un amas de points minuscules. Devant, les avions kamikazes volent par groupes de 3. Soudain, derrière une île, apparaissent les vaisseaux recherchés.
Au loin, je vis des rangées de navires américains. Je comptais ceci. Il y en avait 25 en tout. À cette distance, ils ressemblaient à des pépins de pommes. Au centre de cette armada se trouvait notre objectif. 4 porte-avions, gardés par des cuirassés et un essaim de destroyers.
Le cœur de Yasuo bat la chamade. Il n'a pas peur. Il réprime seulement un sentiment d'infinie déréliction, de total abandon physique et mental. Dans son esprit, à la vitesse de l'éclair, reviennent les souvenirs des mois passés à l'instruction. Ces mois où on leur a appris à ne rien ressentir, à ne rien entreprendre sans ordre, à ne rien penser. Le premier jour de leur incorporation, ils s'imaginaient être traités en petits rois. Les recruteurs avaient tellement complimenté leurs parents.
« Quelle chance avez-vous d'avoir des fils aussi courageux? Ils sont l'honneur de l'Empire. »
La première matinée au régiment les avait fait déchanter. Réveillés à coups de bottes dans les reins, ils avaient été conduits dehors, à moitié nus, puis alignés contre un mur. Le sergent de semaine, armé d'un gourdin, avait frappé l'arrière-train de chacun d'eux jusqu'au sang. Puis il avait expliqué la règle du jeu pour les jours à venir. Un cri de douleur, c'est double ration de coups. Le reste de la journée n'avait été qu'une suite d'humiliations. Yasuo avait dû faire le tour des baraquements en rampant à plat ventre sous prétexte que le sol était sale. Puis les nouvelles recrues avaient été formées à la course à pied jusqu'à épuisement. Ceux qui s'effondraient étaient fouettés jusqu'à ce qu'ils se relèvent. À la fin de la journée, il avait fallu prêter serment de fidélité à l'empereur. Instant solennel, véritable cérémonie d'adoubement. Dans les articles de l'engagement, le soldat reconnaît la loyauté comme son devoir le plus sacré. Tout ordre venu d'un supérieur vient de l'empereur lui-même. En retour, le supérieur doit se montrer bon avec son subalterne. Si le courage doit être la qualité principale du soldat, la fidélité et la droiture sont les 2 piliers de sa conduite. Enfin, le soldat doit cultiver la simplicité dans sa manière d'être.
Ces préceptes sont dénommés la voie suprême du ciel et de la terre et représentent pour nous la loi universelle de l'humanité. À la suite d'une seule erreur dans la récitation, il est arrivé à des hommes de se suicider.
Rapidement, les nouvelles recrues comprennent que les sévices dont elles sont victimes ne sont rien face à ce qu'elles vont endurer pendant les combats. Et finalement, si on les bat jusqu'au sang, ce n'est pas par sadisme, c'est par pure bonté. On veut en faire des surhommes. Yasuo reprend soudain ses esprits. Il lui semble avoir rêvassé des heures, alors que seules quelques secondes se sont écoulées. Oui, ses instructeurs avaient raison. Il est devenu inaccessible à la peur. Comme ces samouraïs de l'âge classique qui savaient mourir en souriant. Dans ses lectures de jeunesse, il se souvenait de ces romans de sabre où les combattants se couvraient la face de crème blanche et se maquillaient les yeux pour que l'ennemi, en cas de défaite, ne puisse trouver sur leurs lèvres une expression de souffrance. Le samouraï n'a pas peur et il est inaccessible à la souffrance. S'il se fait seppuku, harakiri, ce suicide rituel par éventration, il doit, à genoux, s'ouvrir le ventre et envelopper lui-même ses entrailles sur le linge blanc déposé à ses pieds, sans broncher. Un seul gémissement et son compagnon d'armes, debout à côté de lui, armé d'un katana, un sabre, se tient prêt à le décapiter. Dans l'esprit de Yasuo, tout devient cohérent. Certaines pensées parasites parfois viennent troubler sa détermination. Il y a ses parents qui attendent de ses nouvelles. Il y a cette jeune fille rencontrée en ville avec qui il vit un amour naissant. Il sursaute. Les navires américains viennent d'engager la défense antiaérienne. Un frisson parcourt son échine. Il sourit. Un sentiment nouveau perce en lui, étrange, inédit, paradoxal. Ce sentiment, c'est le bonheur d'avoir peur. Yasuo a identifié l'avion de son ami. Il vole en tête du dernier groupe de 3 kamikazes. L'heure du combat est venue. Les 12 pilotes des avions suicides ouvrent leur cockpit et agitent, selon le rituel, l'écharpe de soie qui leur a été donnée et dont l'apparition en cet instant signifie qu'ils acceptent librement leur mission. Le premier groupe de 3 entame le vol en piqué, 1000 fois répété pendant les entraînements. Yasuo revoit une fraction de seconde ces moments de frisson éprouvés lors de cette manœuvre, périlleuse à l'extrême, même lorsqu'elle est accomplie à titre d'essai. Lors des séances d'instruction, on redressait l'avion au dernier moment. Les premiers jours, à 80 mètres au-dessus du sol. Puis l'habitude aidant, on redressait de plus en plus bas. Yasuo, champion en la matière, pouvait interrompre le piqué à 20 mètres du sol. Lors de la remontée, il n'était pas rare que les pilotes s'évanouissent une fraction de seconde. Mais là, il ne s'agit plus d'entraînement. Les 3 premiers kamikazes, malgré un piqué parfait, sont interceptés par les tirs de défense. Leurs appareils, transformés en torches, s'engloutissent dans les flots, juste à côté des bateaux. Le second groupe est plus chanceux. L'un des pilotes parvient à esquiver les balles dont les sillons rouges, bien visibles, constituent pourtant un faisceau mortel, quasi inextricable. Il frappe de plein fouet le pont d'un croiseur qui se brise en deux sous le choc, avant de couler à pic. Yasuo est au comble de l'excitation. Il oublie un moment son ami, dont le groupe n'est pas encore engagé. En voyant les navires ennemis si rudement touchés, il éprouve une joie sauvage. Quant aux pilotes, ses camarades de promotion qui viennent de mourir, il n'y pense pas. Les derniers mois de guerre ont endurci sa sensibilité. Le mois précédent, l'aviation américaine a bombardé une base où il se trouvait. Il s'en est tiré sans blessure, mais à côté de lui, 2 compagnons d'armes gisaient sur le sol. L'un avait le crâne ouvert et l'autre, agonisant, tentait de rassembler dans un ultime effort ses entrailles répandues à terre. Yasuo avait regardé la scène quelques secondes, sans rien ressentir de particulier. Puis, il s'était rendu au quartier général pour faire son rapport. Comment pourrait-il atteindre à présent ? La mort de ces kamikazes dont il ne voit même pas le visage à l'instant de mourir. Le doute a quitté son esprit. Il se prend même à ricaner en se rappelant cette phrase qu'il avait hantée des mois durant.
« Il n'y a pas d'honneur à mourir pour une cause perdue. »
C'était trop beau pour durer. Soudain, le cœur de Yasuo se serre. Devant lui, à une cinquantaine de mètres, le dernier groupe de kamikazes s'apprête à s'engager. Dans l'avion, de droite, il reconnaît son ami Tatsuno. Et oui, c'est lui. Il pilote un vieil appareil poussif, un Mitsubishi, le genre de zinc qu'on met à la casse si on ne s'en sert pas pour ce genre de mission. Le premier avion pique, mais explose presque aussitôt dans un nuage rouge-feu, un temps infinitésimal durant lequel Yasuo se demande où se trouve Tatsuno. Puis
« Tatsuno, je le reconnaissais, c'était lui. » Il était seul maintenant. Il exécuta un vol parfait, meilleur que tout ce qui lui avait été appris à la base. Tatsuno, Tatsuno, son gouvernail arrière était atteint, mais il poursuivit sa course. Les flammes envahirent le fuselage, son appareil était complètement en feu. Mais ils ne purent l'arrêter, Tatsuno. Il prit pour cible un pétrolier. Il était tout près, encore plus près. Une formidable explosion retentit, des tonnes d'essence brûlèrent, une immense colonne de fumée noire assombrit l'atmosphère. Le pétrolier coula. De vastes remous et une large flaque de pétrole marquèrent l'endroit où venait de se dérouler la tragédie.
Les 12 kamikazes ont accompli leur mission. Yasuo n'a pas le temps de se lamenter sur la mort de son meilleur ami. La chasse américaine apparaît au-dessus de lui, prête à le pulvériser. Mais déjà, les nuages qui se sont formés depuis le matin annoncent un orage imminent. Yasuo, instinctivement, fonce vers l'amas de noirs cumulus avec la certitude qu'il pourra semer ses poursuiveurs. De fait, il se trouve à présent secoué par des vents d'une incroyable violence. Ce n'est pas seulement un orage, c'est une tempête typique des intempéries qui frappent la région chaque printemps. Il se souvient soudain de cette légende où le vent divin, frappant les armées mongoles, avait sauvé l'empire du Japon. Il en a la certitude. C'est cette même tempête divine qui est en train de le sauver, comme elle a sauvé son peuple quelques siècles auparavant. Une fois à terre, il doit rendre compte à sa hiérarchie. Il sait qu'il est déjà considéré comme un héros, eu égard à ses états de service. Convoqué par son colonel, il exprime pour la première fois ses sentiments réels, sans masque. Oui, bien sûr, il hait les Américains, mais il hait aussi les autorités de Tokyo, qui envoient le meilleur de la jeunesse japonaise à la mort. Le colonel, de longues minutes, écoute, tourné vers la fenêtre, les penchements rageurs de ce vaillant caporal que personne n'oserait accuser de s'être dérobé à ses missions successives. Puis il s'approche de Yasuo et le regarde droit dans les yeux.
« Oui, vous avez raison. J'ai envoyé moi-même des enfants de 16-17 ans à la mort, sciemment. Non, je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur. J'ai obéi et je continuerai à obéir aux ordres. »
Quelques instants de silence. Yasuo Kuwahara a compris. Il sera de la prochaine mission kamikaze qui sera envoyée quelque part au large du Japon pour se jeter sur les navires américains. Le destin, contredisant le décret des dieux nippons, en décidera pourtant autrement. Alors qu'il effectue une mission de reconnaissance peu de jours avant l'attaque suicide dans laquelle il doit donner sa vie, les Américains bombardent Hiroshima. Le Japon capitule. Yasuo Kuwahara, sauvé par le gong, fera partie des rares kamikazes à avoir échappé à son sort sans perdre son honneur. La dernière mission kamikaze de la guerre a lieu le 9 août 1945, jour même du lancement de la bombe atomique sur Nagasaki. Hiroshima a été détruite 3 jours avant. Ce baroud d'honneur est mené par le grand chef des kamikazes, l'amiral Ugaki. La trentaine de pilotes qui l'accompagnent a joué au dé l'honneur de participer à cette mission. Ugaki s'écrase sur un porte-avions sans faire de trop gros dégâts. Dans les débris, on retrouve son sabre. Le lendemain, le Japon dépose les armes. C'est la fin de ce double épisode consacré à Yasuo et Tatsuno, kamikazes en l'aviation japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Christophe Davio. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.